RCF.
Bonjour à tous, c'est le temps de le dire. Naître, tout simplement. C'est le titre que nous avons donné ce matin à cette émission. Naître, tout simplement. Voilà, l'important c'est d'en naître, mais le tout simplement est aussi important. En cette période de l'Avent, nous avons eu envie de parler de l'attente d'un enfant, mais surtout de sa venue au monde. Aujourd'hui, en France, de plus en plus de femmes souhaitent se réapproprier ce moment de leur vie et désirent un accompagnement moins médicalisé. La naissance comme un des moments les plus intimes, les plus fondateurs dans leur vie et dans celle de leur bébé. Alors je vous propose une belle émission ce matin pour réfléchir à la naissance, à l'accompagnement des futures mamans, comment donner sens à l'arrivée de ces petits êtres pleins de promesses. Bien sûr, comme tous les jours, vous êtes les bienvenus dans cette émission. Vous pouvez nous appeler. Alors si vous venez de mettre un enfant au monde, venez nous raconter comment ça s'est passé, comment vous sentez, comment va votre bébé, ce que vous avez envie de nous raconter sur ce moment merveilleux. Si vous êtes en train d'attendre un enfant, et bien venez nous dire aussi comment ça se passe, ce que vous souhaitez pour votre accouchement. Si cela remonte un peu plus de temps, vous avez aussi la parole. Si vous avez envie de donner un petit grain de sel à cette émission en parlant de la naissance et de la venue au monde des enfants dans ce beau pays, que vous soyez de la partie du personnel médical, que vous travaillez dans la petite enfance, cette émission est faite pour vous. N'hésitez pas à pousser la porte de cette émission. Le téléphone 04 72 38 20 23 04 72 38 20 23 et le mail letempsdeledire@rcf.fr en minuscule et tout attaché.
9h30, 11h, toute la vie en question sur RCF.
Alors, je vous présente mes invitées ce matin. Elles sont trois femmes pour nous parler de la naissance. Je vais commencer par vous, Françoise Bard, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sage-femme.
Oui, je suis sage-femme.
Vous êtes sage-femme, cela fait 26 ans. Vous m'avez dit, vous avez accompagné un peu plus de 1000 grossesses.
Hein ? Oui, entre l'hôpital et les accompagnements qu'on appelle global, j'ai fait plus de 1000, plutôt 1200, 1300.
1200, 1300. Et parmi ces 1200, 1300, il y a 300 grossesses et accouchements à domicile.
Prévues, désirées à domicile et en tout cas en accompagnement global. C'est-à-dire que je connais la maman avant, pendant, assez souvent pendant et après la naissance.
Voilà, vous nous raconterez comment ça se passe et comment vous vivez, puis tout ce que vous avez envie de nous dire aujourd'hui sur la naissance à domicile, mais aussi en maternité. À vos côtés, il y a Agnès Aubry, bonjour.
Bonjour.
Alors vous exercez une profession que les gens ne connaissent peut-être pas forcément, puisque c'est une jeune profession. Vous êtes doula.
Oui.
Alors qu'est-ce que c'est qu'une doula ?
C'est une accompagnante à la naissance, on va dire plus simplement en français. C'est vrai que le mot doula est utilisé dans les pays anglo-saxons notamment, mais maintenant c'est un terme utilisé au niveau mondial.
C'est rentré dans le dictionnaire Hachette.
Voilà, exactement. C'est rentré dans le dictionnaire depuis cette année. Nous nous occupons d'accompagner les femmes pendant la grossesse, parfois pendant l'accouchement, en présence de l'équipe médicale et en post-natal beaucoup aussi.
Alors, vous êtes complémentaire avec les sages-femmes.
Oui, tout à fait. Nous ne faisons pas le même métier. C'est-à-dire que de toute façon, nous, c'est entièrement non médical. Nous ne posons aucun acte médical.
Alors moi, quand j'entendais le mot doula, j'imaginais un peu une nounou, comme les représentations traditionnelles. Une grosse dame avec des gros seins.
Une matrone.
Une grosse dame avec des gros seins et tout. Bon, vous êtes tout en longueur, tout en finesse. Mais vous allez nous raconter. Et puis, je crois qu'avant, vous étiez journaliste. Donc comme ça,
oui,
ça mène à tout.
Voilà, il y a très longtemps. Et puis, j'ai fait de la communication. J'ai exercé pas mal de métiers avant de devenir doula.
Eh bien, merci beaucoup, Agnès Aubry, d'être avec nous et de nous parler de la naissance. Comment vous la vivez. Et puis, dernière invitée dans cette émission, elle est avec nous depuis Lyon. Bonjour, Anne Evrard.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous vous occupez de l'association Bien-être à Lyon. Vous nous racontez cette association ?
Alors, l'association Bien-être est une association de parents qui a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, qui est une association qui a pour but à la fois d'accompagner, d'informer, d'écouter les parents, futurs parents, déjà parents, soit pendant l'attente d'un enfant, parfois même avant la naissance et souvent après. Et puis nous avons aussi pour vocation de travailler avec les professionnels de la naissance pour mieux faire entendre la voix des parents en étant représentant de ces parents dans les structures pour lesquelles c'est prévu.
Alors, cette association est lyonnaise. Des associations similaires, il en existe dans toute la France.
Oui, il en existe dans toute la France et nous appartenons à un collectif qui s'appelle le CIAN, le collectif interassociatif autour de la naissance, qui regroupe les associations partout en France et même dans les territoires d'outre-mer qui travaillent comme nous à la fois à accompagner des parents mais aussi à travailler avec des professionnels pour faire entendre la voix de ces parents.
Donc vous avez l'habitude de rencontrer des sages-femmes, des doulas et des parents, c'est
oui,
ça ?
Oui, c'est mon quotidien.
Bon. Bah, super, bah, merci beaucoup Anne Evrard de participer à cette émission. Voilà, vous connaissez les trois invités, une sage-femme Françoise Bard, une doula Agnès Aubry et puis une responsable d'une association de parents, Anne Evrard. Vous avez la parole dans cette émission, vous nous appelez au 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23 ou par mail letempsdeledire@rcf.fr en minuscule et tout attaché.
Vos questions, vos réactions au 04 72 38 20 23.
Pour commencer cette émission, je voudrais vous demander à chacune de nous raconter une naissance de l'année 2011. On arrive bientôt en 2012. Françoise Bard, vous avez vécu une naissance il y a deux jours, enfin il y a deux nuits. Vous n'allez pas nous raconter celle-ci, vous allez raconter une autre naissance. Il faut quand même respecter la confidentialité de votre métier. Mais juste, je voulais vous demander, vous nous avez dit près de 1300 naissances. Il y a toujours autant d'émerveillement ?
À la naissance,
ou c'est la routine ?
Alors, j'ai travaillé à l'hôpital et quand j'ai quitté l'hôpital, je pense que c'était devenu un peu la routine. Mais depuis que je travaille en accompagnement global, oui, je pense que chaque histoire, je la vis vraiment très, très près de chaque famille. Et donc, chaque histoire est vraiment une histoire différente chaque jour. C'est plein d'ingrédients, le papa, la maman, comment se passe la naissance, le bébé, est-ce qu'il va être très actif, moins actif, enfin, c'est très, très différent.
Alors, une naissance en 2011 qui vous a touché ?
Alors, c'est une naissance en 2011, mais c'est une assez longue histoire, puisque cette maman, je l'ai rencontrée au cours de sa deuxième grossesse, et que quand elle s'est mise en travail, elle m'a appelée. Et quand je suis arrivée à la maison, à sa maison, je n'ai eu pratiquement que le temps de cueillir son bébé. Et je l'ai accompagnée pour les naissances suivantes, qui était par contre très, très, très longue. En tout cas, elle les trouvait beaucoup trop longues. Moi, comme sage-femme, je n'ai pas de critères de temps.
C'est-à-dire pour la naissance ou pour l'accouchement ?
L'accouchement.
Ah oui, c'est sage.
L'accouchement était très, très long. Elle le trouvait beaucoup trop long, trop pénible. Et cette dernière grossesse que j'ai accompagnée pour elle, elle s'est donné beaucoup de moyens. Elle s'est fait faire de l'ostéopathie, de l'homéopathie. Je ne sais pas si elle a fait de l'acupuncture. Et au début de la semaine où je pensais qu'elle allait donner naissance, elle m'a appelée parce qu'elle saignait. Alors on est parti à l'hôpital parce que chaque femme qui est suivie par moi est aussi inscrite dans une structure. On est parti à l'hôpital et ils ont été vraiment très, très accueillants. Ils ont regardé tout ce qu'il fallait regarder. Ils ont dit non, tout va bien, vous allez très bien accoucher. Et deux jours plus tard, elle m'a appelée. Et cette fois-ci, son travail s'est fait en 3 heures. Et son petit bébé, Hélène, qui est son 8e, est né, je crois, bon, on ne peut jamais dire facilement, c'est jamais facile, mais 3 heures, c'était quelque chose qu'elle pouvait bien accepter.
Donc la naissance de la petite Hélène, Agnès Aubry, une naissance suivie par une doula, vous nous racontez ça en 2011 ?
Alors, moi, c'est marrant parce que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est un accouchement auquel je n'ai pas assisté. Voilà, parce que
la doula n'assiste pas forcément.
Pas forcément, effectivement. On accompagne en prénatal, en postnatal. Parfois, donc, on assiste aux accouchements, si l'équipe médicale est d'accord et surtout si la femme ou le couple, voilà, en fait la demande.
L'équipe médicale n'est pas toujours d'accord. Il y a certaines équipes médicales, il faut le dire, qui sont un peu réticentes.
Pour l'instant, oui, oui, oui. Bien que ça avance,
ça évolue,
bien, mais
oui.
Voilà, ça évolue. Mais voilà, c'est ce qu'a dit Françoise qui m'a fait penser à cette femme magnifique qui se reconnaîtra peut-être. Voilà. Voilà, c'est quelqu'un aussi que j'accompagne depuis longtemps. Elle et puis sa famille, donc son mari et ses enfants. Je l'ai connue pour son premier bébé lors d'un atelier de massage bébé. Donc le bébé était déjà né. Voilà, je l'ai connue comme ça. Et puis ensuite, il y a eu un deuxième bébé. qui est né différent, entre guillemets, puisqu'il était porteur de trisomie 21. Voilà, c'était en 2009, donc j'ai accompagné cette aventure-là aussi. Et puis un nouveau bébé cette année, voilà. Donc je n'ai pas été présente à l'accouchement pour diverses raisons, notamment que j'étais partie à un congrès et je lui avais dit « Écoute, si tu as besoin de moi, je pense que je serai là et que tu attendras que je sois revenue. » Et en fait, elle n'a pas attendu, je dis ça en plaisantant, mais c'est vrai qu'elle a accouché très facilement. Et ça a été une très belle naissance. Et voilà, donc ce que je veux exprimer par là, c'est que de plus en plus, je trouve ça très intéressant d'accompagner les femmes au long cours. Donc là, donc pour 3 bébés, pour accompagner les familles, pour accompagner les couples. Et c'est merveilleux de voir l'évolution, de voir le chemin qui se fait. Et d'accompagner vraiment dans la continuité.
Ça, c'est un appel à faire plusieurs bébés.
Pas forcément, mais c'est vrai que quand c'est le cas, c'est vraiment très intéressant d'accompagner sur le long terme. Ouais.
Anne Evrard, est-ce que vous avez une naissance à nous raconter ?
Alors moi, j'aurais plutôt une après-naissance.
Une après-naissance.
Parce que nous accueillons des parents qui, parfois aussi, ont mal vécu la naissance de leur enfant. Et nous sommes parfois un tremplin, un passage pour réussir à faire quelque chose de cette histoire qui n'a pas été forcément aussi heureuse qu'ils auraient souhaité. Et je pense à une maman, effectivement, qui a eu une naissance difficile, compliquée, par un accompagnement qui n'était pas forcément celui dont elle avait besoin, et que nous suivons maintenant tranquillement pour qu'elle fasse quelque chose de cette histoire avec son enfant et qu'elle se reconstruise dans sa famille, dans son quotidien, avec ce bébé-là. Et c'est toujours très, pour moi, touchant et magique de voir combien, quand on écoute les parents, quand on tient compte de la place de chacun, quand on tient compte aussi de la place de l'enfant, de la manière dont il s'insère dans le couple, comment les gens reprennent de l'énergie, réexpriment ce dont ils ont besoin et arrivent à passer un cap. Je trouve ça vraiment réconfortant.
Anne Evrard, pendant toute cette émission, on va parler de la naissance et donc de ce moment, de l'importance de ce moment. Mais vous nous dites quand même, vous mettez un bémol au début de l'émission, même si ça se passe mal, même si ça ne se passe pas comme on l'aurait rêvé, on peut faire un chemin après sans problème, c'est ça ?
Ah oui, pour nous, c'est une grosse part de notre travail. Nous accompagnons des parents qui arrivent vers nous, parfois en cours de grossesse, assez désemparés. Parce qu'ils ont le sentiment de ne pas savoir exprimer déjà pour eux-mêmes et puis par rapport à l'équipe médicale ce dont ils ont besoin. Donc il y a ce travail de leur rendre, de les rendre à eux-mêmes et de leur rendre la capacité de pouvoir se réinscrire dans leur histoire à la façon dont ils le souhaitent. Et ça arrive aussi quand nous rencontrons des parents qui viennent soit pour une deuxième grossesse, soit en attendant une deuxième grossesse, dans l'éventualité d'une deuxième grossesse. Et parce qu'ils ont ce poids, cette gêne d'un premier accouchement qui n'a pas été celui dont ils rêvaient. Et on sait qu'on peut toujours repartir, reconstruire, à partir du moment où on tient vraiment compte de ce dont ils ont besoin, de ce qu'ils ont vécu, de permettre de redonner du sens à ce qui a été vécu. Et oui, il y a toujours possibilité après de reconstruire.
Françoise Bard, vous vouliez réagir ?
Oui, parce qu'à un moment, Anne a dit sans problème. Je crois que c'est pas quand même. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec Anne. Je fais pas que de l'accompagnement global. Je fais aussi. Je reçois aussi des mamans.
On peut préciser ce que c'est que l'accompagnement global pour ceux qui.
Oui, c'est vrai. L'accompagnement global, ben, ça veut dire ça. Ça veut dire je m'occupe de cette dame avant. Peut-être quelquefois, comme le dit Agnès, avant la conception. Il y a des gens qui viennent nous voir avant la conception, pendant la grossesse, à l'accouchement et ensuite. Et puis donc, on peut travailler avec des familles pendant plusieurs histoires de naissance. Mais je reçois quand même beaucoup de femmes qui ont vécu des naissances, comme le dit Anne, qui ne correspondent pas à... Non, c'est pas un rêve. Hein. Bon, bien sûr, ils ont rêvé, mais moi, quand ils me racontent leur histoire, ça me fait froid dans le dos, quoi. Je veux dire qu'il y a vraiment des histoires de naissance en structure qui sont quand même très, très dures. Et sans problème réparer une naissance, j'aimerais avoir les ficelles d'âme. Mais je trouve pas ça si facile que ça, moi.
Anne Évrard ?
Non, facile, c'est jamais facile. Non, ça c'est vrai. Ça demande souvent l'intervention de plusieurs personnes. Et nous, on est, en tant qu'association de parents, on est une zone de passage, en fait. On est souvent peut-être ce qui va permettre de déclencher chez les parents une démarche de reconstruction. Parce qu'ils ont parfois du mal à aller exprimer ce qu'ils ont vécu face à des professionnels. Et donc, très souvent, ils viennent vers des associations de parents parce que nous sommes leurs pères. On a vécu des expériences de naissance du côté des parents. Nous ne sommes pas des professionnels. Nous ne sommes pas dans un domaine de fonction particulière. Nous sommes là juste pour les écouter, les entendre et leur rendre la possibilité de faire quelque chose de ce qu'ils ont vécu. Et très souvent, nous les orientons vers des sages-femmes. C'est vraiment pour nous le premier recours parce que le travail à la fois d'écoute et puis le travail sur le corps a souvent un effet très bénéfique. Alors après, dire que c'est facile, non. Il y a des femmes qui portent effectivement des histoires de grossesse pendant des années et des années. On rencontre maintenant, nous, dans nos réunions, des femmes qui viennent avec leur mère. Et parfois, c'est la mère qui va être grand-mère et qui raconte ce qu'elle a vécu il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, et qu'elle porte encore. Mais il nous semble tout de même que quand on peut donner la parole aux gens et leur rendre la certitude qu'ils ont quelque chose à faire dans ce processus de maternité et de naissance, qu'ils ne sont pas seulement des objets à qui on va dire de faire ci ou ça, mais qu'ils ont leur mot à dire, on voit quand même un changement, une évolution positive.
De quoi ils souffrent, entre guillemets, ces parents, après ces naissances difficiles? Qu'est-ce qu'ils se disent? C'est la difficulté à parler avec le personnel médical, Anne Évrard? Ou s'il y a autre chose?
Alors,
qu'est-ce qui revient le plus souvent quand ils viennent vous voir?
Oui, alors il y a deux choses. D'une part, il y a les sentiments intimes, qui sont souvent des sentiments de grande culpabilité et de dévalorisation. Quand une femme, et on parle peu des pères, mais les pères ressentent souvent la même chose que leurs femmes, sauf que c'est moins dit, ils ont moins de lieu pour s'exprimer. Quand quelque chose s'est mal passé, et mal passé, ça ne veut pas dire qu'il y a eu un accident médical. L'enfant peut, à l'analyse médicale, comme la mère, aller bien, entre guillemets, bien selon des critères strictement médicaux. Et puis, en fait, ça peut être une expérience très douloureuse pour les parents. Et quand il y a eu une expérience douloureuse, les gens se sentent souvent dévalorisés. Ils ont le sentiment qu'ils n'ont pas tenu leur rôle jusqu'au bout, qu'ils n'ont pas rempli leur mission vis-à-vis de leur enfant. Et il y a une grande culpabilité. Et où est-ce que ça naît, ce décalage entre la vision médicale d'une femme et d'un enfant qui vont bien et puis la vision des parents d'une expérience qui peut être extrêmement douloureuse? Elle vient très souvent dans un défaut de dialogue, d'accroche avec l'équipe médicale. Non pas que l'équipe médicale n'a pas fait ce qu'il fallait en termes médicaux, mais il y a eu un défaut dans l'écoute, dans l'accroche, dans l'accompagnement qui fait que les parents ne se sont pas retrouvés en accord avec ce qui est le fondement de leurs valeurs, de ce qui est essentiel pour eux. Et ce qui est essentiel pour eux, à des tas de niveaux, n'a pas été respecté. Et quand ça n'a pas été respecté, les gens se sentent vraiment en échec.
Agnès Aubry, ce décalage, vous l'avez déjà rencontré parmi vous? On dit des patientes? On dit...
Non.
On dit quoi? On dit qu'est-ce qu'on dit?
Moi, j'emploie le mot cliente sans problème. Mmh. Certaines de mes consoeurs emploie le mot les femmes que j'accompagne.
Ouais. Voilà. Jolie périphrase. Voilà. Bon, il faut trouver un mot. On a trouvé le mot doula, il faudra trouver un mot pour les clientes des doulas.
Les femmes accompagnées.
Voilà. Non, mais ce décalage.
Les hommes aussi. Hein.
Oui, ce décalage, hommes. Vous le rencontrez.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est ça qu'on me faisait penser à Anne Évrard. C'est que on me demande souvent, mais vous accompagnez surtout des premiers bébés, parce qu'on se dit.
Voilà.
On se dit, oui, c'est une première expérience, les femmes ne savent pas où elles vont, entre guillemets. Ce n'est évidemment pas le cas, mais en tout cas, c'est ce qui peut être pensé. Mais je n'accompagne pas du tout, et mes consoeurs non plus, seulement des premiers bébés, au contraire, et bien au contraire. C'est largement à part égale avec des deuxièmes, voire des troisièmes, voire plus. Parce que, effectivement.
Quand on vient vous voir la première fois, c'est pour, entre guillemets, réparer une première grossesse, une première naissance qui ne se serait pas passée.
Oui,
comme...
pour un deuxième, un troisième bébé, voire plus, c'est effectivement très souvent des gens, comme le dit Anne Évrard, qui ne se sont pas sentis écoutés lors de la première grossesse et qui sont à la recherche effectivement d'une écoute plus spécifique, plus personnalisée, plus individualisée. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, ils peuvent se tourner vers nous, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on s'inscrit plus dans la continuité et donc on offre une écoute que n'offre malheureusement pas forcément une structure classique.
Françoise Bard, sur le besoin d'être écoutée des futures mamans et des futurs papas.
Oui, alors je vais peut-être dire un mot de la naissance d'hier quand même. Oui, la naissance d'hier était désirée ou pas désirée. Enfin, c'était pas très clair, mais peut-être désirée à la maison. Et en fait, ça a été très 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 long. Et ses parents ayant déjà des enfants, donc ils commençaient à être pris par le temps. Et donc, ils ont décidé de partir à leur maternité. Et en fait, à leur maternité, justement, cette fois, ils ont été très bien écoutés. Et sachant que cette dame avait quand même accouché une fois à la maison, un peu par hasard peut-être, mais une fois à la maison, ils savaient qu'elle voulait quelque chose d'assez naturel. Et donc, alors que le projet était de lui mettre des prostaglandines pour pousser le travail, ils ont dit non, on ne met pas de prostaglandines, on attend. Leur protocole étant de déclencher au bout de 12 heures, ils ont quand même changé leur protocole en l'écoutant. Et ils n'ont pas mis de prostaglandines, ils ont dit on les mettra demain matin si le bébé n'est pas arrivé. Et en fait, c'était déjà un très grand pas parce que cette dame s'est sentie écoutée justement. Et son travail a démarré. Et ensuite, la sage-femme était tentée quand même de lui mettre encore un produit, c'est-à-dire de l'ocytocine. Et cette dame a demandé à ce qu'on respecte son désir et qu'on lui en mette pas et qu'on lui donne une chance d'accoucher sans rien, enfin sans produit, quoi. Et en fait, la sage-femme a écouté. Et son bébé est arrivé. Et donc, comme elle a été respectée, je pense que c'est... Enfin, je ne l'ai pas encore vue, mais je pense que c'est une naissance qui lui a convenu. Parce que justement, chaque étape, la maternité a écouté sa demande.
Mais alors, pour réussir à se faire écouter par le personnel autour de soi, il faut peut-être une certaine maturité des mamans. Alors là, vous nous dites, cette dame, ce n'était pas son premier bébé, si j'ai bien compris. Hein.
Oui, c'était pas son premier.
C'était pas son premier bébé. Quand on est une toute jeune maman qui accouche pour la première fois, c'est peut-être plus difficile.
Oui, je pense que c'est très difficile. Et j'ai un peu le sentiment que des toutes jeunes mamans, soit elles ont l'immense chance, parce que moi, je pense que c'est une immense chance, que leur accouchement se passe tip-top dans les cases des protocoles des maternités. C'est-à-dire ça va assez vite, elles n'ont pas trop mal, la péri marche bien, elles arrivent à accoucher bien. Soit, et donc finalement, il y a quand même 40% d'interventions médicales lourdes, c'est-à-dire il y a 20% de césariennes et 20% de forceps. Donc ces dames ne savent pas qu'elles vont entrer dans un espèce de carcan technologique qui est en principe là pour leur sécurité, mais qui finalement va un peu entraver le déroulement naturel d'un accouchement. C'est comme ça, en tout cas, que moi je ressens ce qui est fait en structure. Et en plus, avec une absence d'écoute, c'est-à-dire qu'on leur dit « Madame, il faut faire ça, parce que maintenant ça fait tant d'heures, alors paf, on va faire ça ». Puis on ne lui demande pas trop son avis, puis elle est très jeune, alors elle ne sait pas... Elle ne va pas dire non.
Il y a toujours l'angoisse de la vie, de la sécurité du bébé aussi.
Oui, puis elle pense que les gens de maternité savent. Et c'est vrai que d'une certaine façon, ils savent. Mais ils imposent un point de vue. Et ce n'est pas forcément celui qui est le plus respectueux de la physiologie de cette dame-là qui tient un énorme organe là, dans sa tête qui s'appelle le cerveau.
Sa tête, Françoise Bard, je dis qu'est-ce qu'elle... Anne Évrard ?
Oui, alors en fait, ce que dit Françoise, on le vit vraiment au quotidien. C'est-à-dire que les femmes ont, et heureusement, une grande confiance dans les soignants vers lesquels elles se tournent. Heureusement parce qu'une femme ne peut pas mettre au monde un bébé dans des conditions optimales si elle n'a pas confiance dans le lieu où elle est. Quel que soit le lieu et quel que soit le soignant, il faut qu'elle soit en confiance. Mais cette confiance s'accompagne parfois du côté des soignants d'un défaut d'information. La femme ayant confiance, on ne se sent pas obligé de lui expliquer forcément ce qu'on fait. On ne se sent pas non plus obligé de lui expliquer le bénéfice ou le risque qu'il y a à utiliser telle ou telle méthode. Et quand les femmes nous racontent leur accouchement, quand elles viennent après une naissance, la première chose qu'elles font, c'est d'ailleurs assez symptomatique. On demande, vous avez accouché, ça s'est passé comme vous le souhaitiez. Elles répondent toujours oui, bien sûr. Et puis après, elles racontent. Et quand elles racontent, c'est tout autre chose. Parce qu'elles avaient cette confiance immense dans le lieu, dans le soignant, dans la sage-femme, dans le médecin. Et en fait, les ratés, elles s'en aperçoivent au fur et à mesure, viennent peut-être du fait qu'on ne leur a pas expliqué qu'elles n'étaient pas non plus actrices, qu'on ne leur a pas donné une place centrale de décideur de ce qui allait se passer. Or, celle qui met l'enfant au monde, c'est la mère. C'est jamais le médecin, c'est jamais la sage-femme. C'est le corps de la mère, c'est l'âme de la mère, c'est le cœur de la mère qui met l'enfant au monde, accompagné, s'il le souhaite, par le père. Et les soignants ont un rôle de vigilance, de diagnostic, d'accompagnement, mais ils ne font rien dans le processus de naissance, si ce n'est cette place cruciale de sécuriser et d'accompagner la mère. Et quand cette place cruciale, elle ne correspond pas aux besoins du couple, de la mère, de l'enfant, il est évident que le hiatus devient important et que l'insécurité, qui n'est pas l'insécurité médicale, qui est une insécurité globale, affective, émotionnelle, psychique, va se fissurer. Et quand elle se fissure, la sécurité médicale elle-même peut se fissurer.
Alors c'est le temps de le dire, les auditeurs et les auditrices ont la parole. Il y a un petit souci technique, c'est-à-dire que je ne sais pas si les auditrices en ligne, on me fait signe qu'il y en a deux, mais je ne sais pas comment elles s'appellent. Alors bonjour Coralie, voilà, on vient me souffler, Coralie. Donc bonjour Coralie, merci d'être avec nous. Vous écoute.
Moi je voulais attirer votre attention sur le cas des césariennes. Moi j'ai 3 enfants, donc tous nés par césarienne pour des raisons de taille de bassin. Et c'est vrai que quand on entend le titre de votre émission « Naître tout simplement », c'est pas du tout simple d'accoucher par césarienne, parce que justement on se sent pas du tout actrice de son accouchement. Par contre c'est vrai que bon, c'est un deuil à faire. Moi la première césarienne j'ai très mal vécu, parce que j'ai évidemment on a voulu me la programmer, et j'ai un peu je me suis opposée au gynéco et je l'ai appelé en disant que je ne viendrai pas à sa programmation, mais donc j'ai commencé le travail avant d'avoir la césarienne, ce qui m'a un petit peu consolée. Mais il y a quand même d'autres moyens aussi de vivre bien des césariennes et de vivre relativement naturellement, en tout cas de vivre certains aspects naturellement. Pour le troisième notamment, nous, ce qu'on a fait, c'est que le papa, donc mon mari, a récupéré notre bébé, et pendant que moi je suivais mon petit bonhomme de chemin pour me faire recoudre, il a pris le bébé donc tout nu contre lui pendant une demi-heure, et moi ça m'a énormément aidée de savoir que finalement il avait ce contact étroit avec au moins un des deux à la naissance, parce que je trouve que ça doit quand même être traumatisant pour un bébé d'être séparé aussi rapidement. Et de savoir qu'il était contre mon mari, ça m'a rassurée, ça m'a aidée à faire encore plus le deuil de ma césarienne, et puis ça a, à mon avis, beaucoup apaisé mon bébé. Bon, il s'avère qu'il est beaucoup plus calme que les deux autres, en tout cas. Et mon mari, je pense que ça lui a fait aussi beaucoup de bien de se sentir un peu présent lors de cette césarienne, de cet accouchement, finalement.
Merci beaucoup Coralie pour votre témoignage sur les césariennes. Difficile de naître tout simplement par césarienne, vous nous le dites, mais il y a des petits moyens de se réapproprier son la naissance dans ce cas-là. Françoise Bard.
Je pense que Coralie a bénéficié de conditions en maternité qui sont souhaitables, mais pas toujours appliquées. Mais je trouve qu'en effet, si le bébé décide par lui-même du jour de sa naissance, c'est un petit peu, et puis que la maman connaît quelques contractions, c'est moins un arrachement de ce bébé à sa mère. Bien entendu, les équipes ne sont pas prêtes à offrir ce choix. Il faut donc se battre énormément si on veut ça, parce que une équipe qui prévoit une césarienne, elle préfère nettement la faire à 8h du matin plutôt qu'à 3h du matin. Donc voilà, c'est dommage, parce que moi je pense que vraiment, on sait aussi que les bébés qui ont connu des contractions résistent globalement mieux, sont moins souvent hospitalisés que ceux qui n'en ont pas eu après une césarienne. Donc je pense que c'est un choix raisonnable, fatigant pour l'équipe, mais raisonnable pour le respect de la physiologie. Et ce bébé qui a été en contact avec son papa, évidemment c'était le bébé qui était tout nu, hein, je pense pas que c'était le papa, je pense que ça a fait beaucoup de bien au papa et aussi au bébé bien sûr. Et il y a des maternités qui laissent aussi le bébé très longtemps avec sur sa maman, avec le papa assis à côté, du côté de l'anesthésiste. Et donc c'est aussi une façon de rendre la naissance à ses parents-là.
On n'est pas obligé de prendre le bébé tout de suite pour aller le laver.
Non, ouais. Il n'est pas très sale, je pense. Hein, donc. Et je voudrais ajouter un point, c'est que pour les mamans qui ont vécu une césarienne, il y a sur l'Internet, il y a une association qui s'appelle Césarine et qui qui donne énormément d'informations sur le pourquoi, comment, peut-être on pourrait éviter une prochaine fois d'avoir une césarienne. Et puis aussi, l'échange entre les mamans ayant vécu une césarienne leur permet aussi de voir que les douleurs qu'elles ressentent ne sont pas à elles seulement, mais que beaucoup de femmes sont dans la même situation. Et ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas la seule à avoir été très déçue d'avoir une césarienne.
On continuera peut-être à parler de la césarienne dans la deuxième partie de cette émission. Je vais demander à Agnès, qui est dans l'Hérault, de patienter. Et puis à Gonaëlle, si elle veut nous rappeler, il n'y a pas de souci. C'est le temps de le dire. Vous êtes les bienvenus au 04 72 38 20 23.
Vos questions, vos réactions au 04 72 38 20 23.
Naître, tout simplement, c'est le titre de cette émission. Ce matin, nous sommes en compagnie de Anne Evrard, l'association Bien-être à Lyon, de Agnès Aubry, qui est doula, et de Françoise Bard, qui est sage-femme. Vous nous appelez au 04 72 38 20 23. Juste avant de donner la parole aux auditrices, Agnès Aubry, vous vouliez dire quelque chose sur les césariennes. Vous nous disiez, c'est possible, quand on a eu deux césariennes, d'accoucher par voie basse pour la troisième naissance.
Oui, je voulais apporter une petite note d'espoir, parce que c'est vrai que Coralie, tout à l'heure, je crois que c'est Coralie, a témoigné à propos de ces trois césariennes. Mais c'est vrai que parfois aussi, on peut manquer d'informations. D'ailleurs, c'est pour ça que je rejoins aussi Françoise tout à l'heure, qui évoquait l'association Césarine, qui fait un boulot très très important d'information et de soutien entre parents en ce qui concerne la césarienne. Effectivement, moi, j'ai accompagné plusieurs naissances par voie basse après deux césariennes. Donc, ce sont des naissances particulières, effectivement, puisque la maman peut se poser beaucoup de questions sur ses capacités. Elle a parfois des problèmes de confiance en elle, forcément. Et il y a quelques praticiens qui soutiennent des femmes comme ça, qui veulent essayer la voie basse après plusieurs césariennes. Il en existe. Et vous me posiez la question de savoir si ces accouchements-là étaient très, très, très médicalisés et très surveillés. Ils sont surveillés, effectivement, bien sûr. Moi, je l'ai vu notamment à Villeneuve-Saint-Georges, en région parisienne. Mais je dirais que la composante essentielle de l'accompagnement du mien, mais également, bien sûr, des praticiens sur place, c'est la confiance qu'ils mettent dans les mamans, dans leur capacité à pouvoir justement accoucher par voie basse après ces césariennes. Et c'est tout à fait fondamental. Et c'est ce qui les aide, ces femmes, à pouvoir le faire.
Bon, on n'a pas toujours la chance de rencontrer des praticiens comme ça sur son chemin, c'est ça le souci. Hein.
Mais je rajouterais quand même que ces quelques femmes que j'ai accompagnées ont fait un boulot énorme pour parvenir à leur fin, on va dire, pour obtenir ce qu'elles désiraient, puisqu'elles sont venues accoucher en région parisienne alors que l'une était de Lyon. L'autre était de Bretagne, de Lorient, et l'autre était de Corrèze. Donc elles ont vraiment fait leur maximum pour trouver quelqu'un qui les accompagnerait dans cette aventure. Elles ont trouvé, et c'était une aventure pour chacune magnifique.
Là, vous nous parliez après deux accouchements, enfin deux, mais après trois césariennes, c'est plus compliqué, visiblement.
C'est plus compliqué, visiblement, mais ça peut être tenté. Il y a une femme qui m'a contactée il y a quelque temps en préconception, justement, pour ça, et qui s'adresse effectivement aussi à Villeneuve-Saint-Georges, en région parisienne, dans ce cadre-là, puisque le praticien en question, donc le docteur Maria, qu'on peut vraiment soutenir dans sa démarche, est à l'écoute aussi de ce genre de situation.
Agnès nous appelle depuis l'Hérault. Bonjour Agnès.
Oui, bonjour.
Allez-y, nous vous écoutons.
Oui, voilà. Bon, moi, je voudrais juste témoigner de mes quatre accouchements, et en particulier le dernier, à la maison. Le premier avec une sage-femme de 75 ans, Madame de Béarn, qui accouchait dans une maison du côté de Sarlat. Donc elle avait 75 ans à l'époque, elle avait déjà fait 4000 accouchements. Et toutes les femmes du monde entier venaient accoucher carrément dans sa maison, dans toutes les positions, dans tous les endroits, dans le jardin. Tout était accordé pour ce moment-là. Et donc, je voudrais aussi vous raconter le dernier accouchement que j'ai fait dans une cabane au fond des bois, donc accouché par une amie. Et j'avais fait un poème à cette occasion. Si vous voulez, je vous raconte juste le poème, voilà.
Allez-y, on vous écoute.
Voilà, alors c'est un poème qui exprime les risques que j'ai pris en voulant accoucher dans ces conditions. Les seuls risques que j'ai pris à mon goût. Alors, en t'accouchant dans une cabane au fond des bois, Renata, j'ai pris le risque d'attendre sans stress ta venue et de prendre les positions que mon corps et mon âme me proposaient, au seul regard de mon compagnon et de mes enfants. En t'accouchant à la maison au fond des bois, Renata, j'ai pris le risque de me conformer à aucun ordre établi et de ne faire confiance qu'à la singularité de mon histoire et de mon être. J'ai pris le risque, Renata, de ne sentir que par moi-même le moment idéal et l'unique manière de t'aider à franchir cette étape douloureuse qui est ta naissance. J'ai pris le risque, Renata, de pouvoir m'estimer et de donner toute la chaleur et le contact de mon corps, tout le temps voulu pour ta bonne adaptation et ton équilibre, sans me soumettre à une autorité autre que celle de la vie et de la nature. J'ai pris le risque, Renata, de te respecter, de me respecter et de respecter la vie. J'ai pris le risque, Renata, de ne mettre au monde qu'un bébé qui n'aura pas bénéficié de la barbarie engendrée parfois par les soins aux nouveau-nés dans les hôpitaux. J'ai pris le risque, Renata, de laisser tes frères et sœurs poser leurs mains chargées d'émotions sur ton petit corps, en toute liberté et dans le respect de chacun. Et je crois que jamais je ne pourrai prendre le risque, Renata, de faire autrement. Voilà.
Merci beaucoup, Agnès. Merci beaucoup. Alors, merci pour votre témoignage. Je ne sais pas si on vous suit pour tout, hein, parce que la barbarie des hôpitaux, on veut peut-être pas, on va peut-être pas. Je suis peut-être un peu exagérée, même si on n'est peut-être pas d'accord avec tout. On peut peut-être parler de la en profiter. On ne va pas faire toute l'émission sur l'accouchement à domicile, mais Françoise Bard, il faut quand même redire, c'est quelque chose d'encadré quand même. On ne fait pas ça n'importe comment.
Bon, Renata a fait un choix différent, mais...
C'est Agnès, et Renata, sa petite fille, oui. Visiblement.
C'est Renata qui a soutenu sa maman. Agnès a fait un choix différent de donner naissance dans une cabane au fond du jardin. Bon, je ne suis pas très sûre qu'elle aurait eu une naissance très différente si elle était restée dans sa maison avec une sage-femme. Toutes les sages-femmes ne sont pas forcément interventionnistes. Donc, une naissance qui se passe bien peut se passer tout à fait comme ça s'est passé pour Renata à la maison. Je crois que, malheureusement, si les hôpitaux existent, ce n'est pas juste comme ça une lubie, mais parce que parfois, les choses ne se passent pas si bien. Et bien sûr, Agnès a eu une grande confiance et il se trouve qu'elle a eu raison. Mais je trouve que c'est un peu... Enfin... C'est un peu difficile d'encourager qui que ce soit à prendre ce chemin, alors que, bon, s'il y a quelque chose qui va pas bien, c'est quand même assez réconfortant et positif qu'il y ait du matériel, du savoir un peu pour aider ce bébé ou cette maman si les choses ne vont pas bien.
Tous les accouchements ne peuvent pas se vivre à domicile ?
Alors, moi, je vais dire une chose, je pense que l'accouchement doit... au mieux se placer là où la maman le désire. Je pense que c'est très important. Une femme qui a envie d'accoucher à l'hôpital avec une péridurale, c'est ce qui va lui convenir au mieux. Et une femme qui a envie d'accoucher à la maison et que tous les voyants sont au vert, son bébé va bien, elle va bien, ben c'est aussi ce qui lui convient le mieux. Mais il faut que les voyants soient au vert, il faut qu'elle aille bien, il faut que son bébé aille bien. Et je ne vais jamais encourager quelqu'un qui n'en a pas envie d'accoucher à la maison. C'est vraiment le lieu, un peu comme les animaux font leur nid. Alors les femmes, elles font leur nid, elles cherchent la matière qui, elles pensent, va mieux leur convenir. Et le hiatus, c'est entre ce qu'elles pensent et ce qui va réellement se produire. Mais autrement, je pense que c'est l'endroit qu'elles choisissent qui est le mieux. Et ce qui serait bien, c'est que l'équipe soit souvent plus à l'écoute. Et non pas toujours à la course avec beaucoup trop de mamans dont elles doivent s'occuper. Et peut-être une grande certitude que ce qu'ils font est le mieux pour elles, alors que les femmes sont différentes et les histoires de naissance différentes. Mais elles le perdent de vue, je pense, à l'hôpital.
Agnès Aubry ?
Oui, d'ailleurs, je voudrais préciser quelque chose. C'est que très souvent, on nous demande, nous en tant que doula, mais vous n'accompagnez que des naissances à domicile, n'est-ce pas ? Et bien sûr que non, bien sûr que non. En fait, les naissances à domicile en France, il y en a très peu, donc on en accompagne peu. On en accompagne de toute façon toujours quand il y a une sage-femme. Déjà, ça, c'est un point important. Là, aujourd'hui, effectivement, je représente l'association Doula de France. C'est important de dire et puis de faire passer au public le message suivant, c'est que nous, nous n'accompagnons que dans le cadre d'une naissance où il y a un praticien.
On ne peut pas accoucher avec une doula, c'est ça ?
Non, voilà. Non. Ça, c'est très important de le dire parce que c'est vrai qu'il y a parfois des confusions. Parfois, des femmes peuvent éventuellement appeler pour demander « mais vous nous accompagnez même s'il n'y a pas de sage-femme ?» Non, absolument pas, puisque nous ne posons aucun acte médical, comme je l'ai précisé au début. Nous respectons la charte qui a été établie donc, par l'association Doula de France. Toutes les doulas qui sont inscrites dans l'annuaire de Doula de France respectent cette charte et n'accompagnent en aucun cas une femme dans un accouchement qui ne serait pas suivie par un praticien, quel qu'il soit, médecin, sage-femme.
Anne Évrard.
Oui, moi j'ai été intéressée par le témoignage d'Agnès dans la mesure où ce qu'elle met en avant, c'est vraiment le fait qu'elle a voulu être actrice. Alors elle a choisi un point de vue effectivement qui est extrêmement spécifique, mais ce qu'il faut faire passer comme message, c'est que toutes les femmes, là où elles sont, devraient pouvoir avoir cette même capacité à être réellement actrices de leur naissance, accompagnées s'ils le souhaitent par leurs compagnons. Elles ont quelque chose à dire et nous favorisons énormément, quel que soit le lieu de naissance, quel que soit le mode de naissance choisi par les parents ou imposé par des critères médicaux avérés, nous travaillons beaucoup autour de la question du projet de naissance. Et il est extrêmement important de faire passer aux parents le message. Ils ont la possibilité et le droit même, puisque c'est inscrit dans la loi, de construire ce qu'on appelle le parcours thérapeutique. C'est ainsi que c'est marqué dans la loi Kouchner. Le patient construit son parcours thérapeutique en fonction des informations qui lui sont données, entre autres par les soignants qui le suivent, et les informations qu'il peut aussi obtenir par lui-même. Et cette possibilité de récupérer une partie de ce qui va se passer, voire la totalité, de pouvoir dire « j'ai des souhaits qui sont importants pour moi, qui sont vraiment essentiels, qui correspondent à mes valeurs, à mes désirs, à la manière dont je veux mettre mon enfant au monde, dont je veux l'accompagner à la fois pendant l'accouchement et pendant les premiers instants de sa vie », ça fait partie du rôle de parent. Et nous voyons encore des parents qui ont une révélation quand on leur dit mais vous pouvez dire des choses à votre soignant, parce qu'ils ont le sentiment que le meilleur moyen d'accoucher, c'est de dire entre guillemets oui et amen, si vous voulez, et de se soumettre. Et ils sentent bien que pour autant, ils ne vont pas y être bien dans cette soumission. Or, en fait, le meilleur moyen d'accoucher, c'est au contraire de rentrer en dialogue avec les soignants.
Germaine nous appelle depuis Brest. Bonjour Germaine. Est-ce que vous êtes avec nous, Germaine? Allô, allô? Germaine, je crois que vous avez appelé la radio RCF, mais vous êtes éloignée du téléphone. Bon, bah tant pis, rappelez-nous, Germaine, hein, ou raccrochez, redécrochez, je ne sais pas. Il y avait Gonaëlle qui voulait dire qu'elle a accouché deux fois chez elle avec succès et que ça a été un grand bonheur. Voilà, vous nous appelez, hein, pas forcément si vous avez accouché chez vous, hein, vous pouvez nous raconter aussi votre accouchement en maternité. Vous êtes les bienvenus au 04 72 38 20 23.
Aujourd'hui peut-être, demain ça sera vachement mieux. On en rend comme une bête, tu tires la vache par la queue. C'est dur aujourd'hui, la crise te retourne le steak sur la paille.
t'as perdu ton coup de fourchette dans les petites annonces du soir. Chez Louise, quelqu'un rond comme une bonbonne. Quel feu de l'enfer sous sa chemise, le ciel dans son stock
Jacques Higelin, coup de foudre ce matin sur RCF. Nous parlons de la naissance, naître tout simplement. Nous sommes avec Anne Évrard de l'association Bien-être à Lyon et puis avec Françoise Barthes, sage-femme, et Agnès Aubry, doula. Alors, depuis le début, on dit doula, sage-femme, c'est pas pareil. On vous accompagne toutes les deux des femmes. Est-ce que vous pouvez nous dire vraiment quel est le métier d'une doula, quel est celui d'une sage-femme? Parce que sage-femme, on va commencer par vous, Françoise Barthes, on connaît un peu plus le métier d'une sage-femme, c'est d'aider les autres femmes à mettre au monde, c'est ça?
Oui, oui. Le métier de sage-femme, c'est d'aider les femmes à mettre au monde. Sauf que aujourd'hui, les sages-femmes en hôpital sont très peu nombreuses comparativement au nombre de femmes qui accouchent et donc ont très peu de disponibilité et donc vont être trop souvent acculé à ne faire que de la présence technique, écouter le bébé avec le monitoring, poser une perf. Voilà, donc c'est très technique, alors qu'il y a une grande partie du métier qui est d'entendre cette femme-là, sa demande, et justement, comme le dit Anne Évrard, donc si elle a un projet de naissance, de pouvoir se conformer à son projet. Mais encore faut-il avoir ce temps-là.
C'est avant tout pour vous un métier d'écoute plus qu'un métier technique?
Moi, je pense que le métier est devenu technique, c'est un peu une hérésie. Je pense que l'accouchement est un acte très naturel, sinon on ne serait pas 7 milliards d'individus sur la planète. Et donc la technologie devrait venir en soutien lorsque la physiologie ne marche pas. Mais on a fait un peu des pas progressifs, c'est-à-dire que maintenant, on voudrait que la physiologie cadre avec les idées que se font les obstétriciens et les sages-femmes de l'accouchement. C'est donc impossible pour certaines femmes de rentrer dans les normes qui sont imposées d'un centimètre par heure. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a 20% de césariennes, 20% de forceps. Et sans compter les 30%, non, peut-être que c'est descendu un peu, mais sinon, chaque femme va vivre pour 70% d'entre elles un acte gravement médical sur son anatomie, quoi. Donc je trouve que c'est dur.
Y a quand même un savoir-faire des sages-femmes.
Mais
je sens ma doula à côté, là, qui dit oui, oui, oui.
Mais je ne suis pas très sûre, parce qu'en fait, un savoir-faire Et ça reste, comme dit Anne, la femme qui accouche. La sage-femme qui est à côté va accompagner la femme dans son effort, peut-être l'encourager à bouger, l'encourager à pousser au moment de la poussée, et puis modérer la sortie du bébé éventuellement. Mais une sage-femme ne va pas mettre au monde un bébé, c'est la femme qui met son bébé au monde.
Alors, Agnès Aubry, que dit la doula? Quel est le travail d'une doula? Quelle est la différence avec la sage-femme? Pas d'acte médical. Vous,
oui,
vous,
déjà,
donc vous ne posez pas de monitoring. Enfin, vous ne posez pas de perf, vous n'avez pas de monitoring.
Voilà, exactement. Donc,
mais j'ai l'impression qu'elle pose pas beaucoup de perf à côté de nous.
Françoise, c'est pour ça d'ailleurs que on travaille parfois ensemble. Françoise et je dirais moi, mais d'autres doulas également, puisqu'on a souvent des visions un peu similaires de ce qui peut être soutenant pour une femme. Notre métier, c'est effectivement d'accompagner. Alors, ça peut paraître un peu flou, le mot accompagnement. Effectivement, je comprends votre questionnement. Parce que, en fait, ça dépend de chaque femme, de chaque couple. J'accompagne toutes sortes de naissances ou de chemins vers la naissance. Ça peut très bien être, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, des femmes qui ont eu des césariennes et qui veulent essayer par voie basse. Ça peut être des premiers bébés avec une femme qui va vouloir une péridurale absolument parce qu'elle ne pense pas pouvoir y arriver autrement. Mais ça peut être aussi des femmes qui veulent aller vers la physiologie, comme on dit, donc écouter leur corps et découvrir leur capacité à mettre au monde, c'est les accompagner sur ce chemin-là, quelle que soit leur demande, en fait. Donc, il y a une part d'écoute, évidemment, de parole, il y a aussi une part d'information, parce que, comme on l'a déjà évoqué précédemment, ne serait-ce que, par exemple, sur les césariennes, enfin, les voies basses après césarienne, la plupart des femmes, l'info ne leur est pas donnée. Donc, quand elles se mettent à chercher un petit peu, elles se posent des questions. Nous, on peut les aider à trouver l'info. Par exemple, si elles ne connaissent pas l'association Césarine ou ce genre de choses, on peut aussi leur donner ces infos-là. Elles vont pouvoir faire la démarche de s'informer, de réfléchir. On les soutient aussi, évidemment, beaucoup dans les projets de naissance, hein, comme Anne Évrard l'évoquait. Ça, c'est une part aussi importante. Quand une femme va accoucher notamment en structure, c'est moins le cas évidemment à la quand c'est un accouchement à domicile, puisque très souvent le projet de naissance va un petit peu de soi, entre guillemets, enfin, les sages-femmes sont très à l'écoute, donc c'est pas forcément écrit, etc. Mais pour un accouchement en structure, parfois il est quand même nécessaire effectivement d'écrire ce projet de naissance, c'est de pouvoir en discuter ensemble, de pouvoir aussi instaurer un dialogue avec l'équipe médicale parfois. Parce que certaines personnes n'osent pas, donc on les soutient en leur disant « mais vous avez le droit de poser des questions, vous pouvez ». Alors, en revanche, et ça je tiens à le souligner, nous ne sommes pas des coachs. Et ça, effectivement, notre charte le spécifie bien. On ne dit jamais à une femme ou à un couple ce qu'il a à faire, ce qui est bon pour lui, ce qui n'est pas bon pour lui. Non, on est là pour écouter, pour répondre à des questions, parfois pour informer s'ils ne trouvent pas l'info, mais en aucun cas
rassurer,
voilà, soutenir, rassurer, c'est le principal, mais absolument pas pour faire du coaching.
Alors il y a des auditrices au téléphone, je les fais attendre, je suis désolée. Florence est en ligne, bonjour Florence.
Bonjour, de Montpellier, je suis infirmière avec des études de puéricultrice. Et il se trouve que je m'interrogeais pour la naissance dans l'eau. Je ne sais pas où est-ce qu'il y a des endroits où c'est réalisé, au sein de l'Hérault, au sein du Gard, ou bien peut-être plus loin, je ne sais pas.
Merci beaucoup Florence pour votre question. Alors je vais regarder autour de moi qu'est-ce qui peut répondre. D'abord peut-être parler de l'accouchement dans l'eau, ça se fait encore, ça se fait. Alors oui, on me dit oui, Françoise Bard.
Oui, ça se fait. L'accouchement dans l'eau se fait dans des structures à Paris. Donc, on est malheureusement toutes les deux parisiennes. Donc, on sait bien où l'accouchement dans l'eau est possible. Ça peut se faire aussi à la maison parce qu'il existe des baignoires, des piscines d'accouchement gonflables et donc pas très chères qu'on peut acheter. Assez souvent, c'est le travail qui se fait dans l'eau plutôt que la naissance, parce qu'au moment de la naissance, on a parfois besoin d'appuis beaucoup plus sérieux que ce que peut provoquer l'eau. Mais bon, on peut accoucher dans l'eau aussi. Je pense qu'une source de renseignement par rapport à l'accouchement dans l'eau, c'est peut-être d'aller voir le CIAN, d'envoyer un message sur Doula de France, qui sont de partout. Et puis, je pense que les maternités, elles répondent, elles ont des descriptifs pour savoir si l'accouchement dans l'eau est possible ou non.
Anne Evrard ?
Oui, je pense qu'on peut effectivement conseiller d'aller sur le site du CIAN.
On va leur donner l'adresse.
Donc c'est si vous tapez CIAN, ça sort très facilement.
Donc CIAN, ça s'écrit C-I-A-N.
C-I-A-N-E. Voilà. Et donc vous avez la liste des associations par région. Vous pouvez donc vous adresser à une association de votre région. Ensuite, vous pouvez aussi voir effectivement dans la maternité où vous êtes, en demandant très simplement, est-ce que vous faites de l'accouchement dans l'eau ou est-ce que vous avez au moins une baignoire pour le travail ? C'est ce que l'on trouve la plupart du temps. L'accouchement vraiment dans l'eau est de plus en plus rare. Les hygiénistes ont décidé que ça devenait quelque chose de dangereux. Alors quand les hygiénistes parlent, on s'incline. Et donc, il y a de moins en moins de maternités qui font vraiment de l'accouchement dans l'eau. Mais par contre, on voit une montée de baignoires pour le travail. Donc ça, on peut s'adresser aux maternités et le demander en amont même de l'inscription dans une maternité. Ce qui vous permet effectivement de faire un choix un peu plus éclairé.
Gwenaëlle nous appelle depuis, je crois que c'est Montpellier. Bonjour Gwenaëlle.
Oui, bonjour, j'appelle depuis Bordeaux.
À Bordeaux, je vous trompe.
Alors moi je suis maman de deux enfants qui ont 4 ans et 2 ans. Et j'ai mis au monde ces enfants à la maison. Donc deux moments très, très différents. Ce que je voulais dire, c'était que pour moi le point de départ, enfin c'est pas un objectif en soi que d'accoucher à la maison, mais mon point de départ c'était de rechercher quelque chose qui me convenait. La notion de sécurité, pour moi, c'était pas être dans une salle d'hôpital et ça me paraissait contre nature que mon bébé soit accueilli par des mains de quelqu'un que je connaissais pas, quoi. Voilà, donc j'ai recherché plusieurs voies et j'ai trouvé une sage-femme en accompagnement global qui a su être là, qui a su tisser une relation chaleureuse et confiante avec le futur papa et moi. Et voilà, et après coup, je me dis que c'était un magnifique cadeau de la vie pour le bébé, pour moi, pour le papa, et pour la seconde naissance, pour la grande sœur aussi. Voilà, c'est elle qui nous a dit que c'était un petit garçon. Voilà, c'était très très fort comme moment.
Merci beaucoup Gwenaëlle pour ce témoignage. Est-ce que vous voulez réagir, oui. Anne Evrard,
oui. Oui, moi je trouve intéressant parce que toutes ces femmes qui parlent de naissance épanouie, elles parlent du fait qu'elles ont choisi et elles étaient en sécurité. Et je pense que c'est important de dire aux femmes qu'elles ont cette possibilité de choix. Elles ne sont pas dans un parcours fléché d'avance et qu'elles ont la possibilité, là où elles sont, avec les moyens qui sont autour d'elles, alors, et les moyens dont elles ont envie de s'emparer. Ça peut être effectivement un suivi global, mais ça peut être un suivi en maternité par une sage-femme, ça peut être un suivi par une sage-femme libérale qui pour autant n'accompagnera pas la femme pour l'accouchement, ça peut être aussi un suivi, bien entendu, par un médecin obstétricien. Elles sont dans la capacité de dire ce dont elles ont besoin pour pouvoir à la fois choisir et être en sécurité. Et si leur compagnon souhaite les accompagner, le père a aussi son mot à dire. On a fait entrer les pères en salle de naissance parfois sans leur donner une vraie place. Or, ils ont une place, s'ils souhaitent s'en emparer, qui est celle qu'ils vont construire. Et insister pour que là où les femmes accouchent, quel que soit le lieu qu'elles choisissent, elles puissent être actrices de cette naissance, me semble vraiment primordial.
Véronique nous appelle depuis Lille. Bonjour Véronique.
Bonjour, je téléphonais parce que j'entends beaucoup de témoignages sur les accouchements à la maison. Et moi je voulais témoigner que j'avais accouché à l'hôpital, enfin à la maternité, des cliniques. Et j'ai été très satisfaite de tout le corps médical, j'allais dire, qui a accompagné tout à fait correctement et tout à fait à l'écoute de ce que je voulais. Donc voilà. Et je voulais dire aussi que là j'attends notre septième, j'y vais avec beaucoup de sérénité parce que en 10 ans de temps, mon aîné a 10 ans donc et la petite dernière 2 ans. Là, on attend notre septième et j'y vais sereinement et surtout l'équipe me fait confiance aussi sur ce que je désire. Et donc quand on te demande de ne pas avoir de péridurale par exemple, c'est accepter très facilement. Ne pas avoir, enfin, éviter la césarienne, c'est accepter aussi très facilement. L'équipe n'a jamais dit, ah bah vous aurez une césarienne forcément parce que c'était le quatrième et qu'il était mal placé. Mon gynéco m'a dit, on essaiera d'éviter la césarienne si vous le souhaitez, on fera tout pour l'éviter, par exemple. Par exemple, moi j'ai voulu accoucher sur le côté pour la sixième. Au début, il n'était pas pour le gynéco. Là, à nouveau, il n'est pas pour, mais il m'a dit, on essaiera quand même et si ça vous convient, et ben, on le fera. Donc voilà, je voulais dire quand même que en clinique, en discutant, faut être assez ferme sur ses positions. Je pense effectivement qu'une maman qui a un premier bébé, peut-être que c'est plus difficile, mais on peut quand même dire ce qu'on veut, et puis rester ferme sur ses positions et avoir un bon souvenir. Moi, j'ai eu un bon souvenir de chacun de mes accouchements. Je voulais aussi rebondir sur le fait quand on en parle. C'est important aussi de pas trop, enfin, donner son expérience est intéressant, mais il y a des mamans qui se posent aussi beaucoup de questions, et moi je donne pas trop de détails sur les accouchements. Je préfère vraiment parler de la naissance, de dire c'est merveilleux d'avoir son petit bébé là sur le ventre, de l'avoir accueilli, et puis tout ce qui s'est passé un petit peu avant. J'aime autant ne pas trop en parler parce que je trouve que les mamans doivent aussi garder cette surprise, cette inattendue de la vie qui va arriver, même s'il y a quelques petites souffrances, effectivement, quelques interrogations, etc. Je pense qu'il faut aussi leur laisser cette surprise, cette découverte, et puis ce bonheur de donner la vie, et peu importe, je pense qu'on oublie tellement vite les petits inconvénients pour avoir ce petit bébé contre nous, voilà.
Merci beaucoup Véronique, et puis on vous souhaite une très jolie naissance très bientôt. Cette naissance, ça fait rêver, hein. Agnès Soubry, vous vouliez rebondir sur ce témoignage. Il faut être ferme, elle le dit, oui, hein. Voilà, mais si on est ferme, on arrive à obtenir ce qu'on veut.
C'est ce qui me semble effectivement intéressant dans le témoignage, et comme le disait Anne Évrard tout à l'heure, c'est que se faire entendre. Faire entendre, c'est vraiment important. Ça change quand même beaucoup le ressenti au final. Même si une naissance, d'ailleurs, c'est ce que Françoise, je crois, a évoqué un peu plus tôt, une naissance, parfois, ne se passe pas idéalement, comme on l'avait souhaité ou rêvé. Mais si on est entendu, si l'équipe explique ce qui se passe, si la femme a le temps d'intégrer, voilà, ce qu'on lui propose, ça change vraiment le ressenti sur le long terme. Et effectivement, comme l'a dit Anne, ça permet de penser beaucoup de plaies et de ne pas rester avec quelque chose en soi qui n'est jamais sorti.
Anne Évrard, Véronique, elle parlait aussi un peu de la pudeur, de ne pas tout dire de la naissance.
Oui, alors c'est vrai que souvent les femmes qui attendent par exemple leur premier bébé sont très sujettes à des récits variés, multiples, de naissances plus ou moins catastrophiques. Et je crois surtout qu'en fait, ce dont on s'aperçoit, nous, en écoutant des parents et en étant nous-mêmes parents, c'est que chaque naissance est différente. C'est différent pour une même femme, c'est différent d'une femme à l'autre. On est différente, donc on ne recherche pas les mêmes choses. Et je dirais plutôt que c'est pas tant sur la pudeur que j'insisterai, mais sur le fait de ne pas enfermer la femme dans un modèle. Et c'est vrai que raconter une naissance, confier par exemple à ses copines le choix de dire si ce lieu ou ce lieu est mieux qu'un autre, c'est pas forcément une bonne idée, parce que on peut être très proche d'une amie et pour autant ne pas avoir du tout les mêmes besoins qu'elle en matière de sécurité, d'accompagnement, de soutien. On peut ne pas avoir les mêmes désirs. Et je trouve que très souvent, les femmes ont peu le sentiment qu'elles peuvent laisser exprimer des désirs. Je me souviens d'une jeune femme qui m'avait dit « Moi, je fais mon travail pendant 9 mois, mais le jour J, le boulot, c'est à eux. Et eux, c'était les soignants. » Or, en fait, le boulot, le jour J, c'est à nous, les femmes. Hein. Donc, cette possibilité, puisque c'est nous qui allons agir, c'est nous qui mettons les enfants au monde, d'exprimer des désirs, d'exprimer un ressenti, de dire je suis bien ou je suis mal, ça m'inquiète, ça, je n'en veux pas, ça, c'est pas en accord avec moi-même, ça me semble être le fondement de la sécurité de la femme. Et les femmes, elles ont besoin de cette sécurité pour elles, pour leur bébé. Et on leur a, entre guillemets, vendu une sécurité médicale qui se construit souvent sans tenir compte de la sécurité globale dont la femme a besoin. Et on met en avant des critères qui sont des critères strictement médicaux et qui ne tiennent pas compte de la globalité des besoins de la femme. Et souvent, c'est pour ça qu'il y a hiatus et qu'il y a vraiment désaccord, mal-être après une naissance, parce qu'elle avait un besoin bien plus large. Le conjoint aussi avait un besoin plus large. Le bébé avait un besoin plus large et qu'on s'en est tenu à des critères médicaux.
Dominique nous appelle depuis Dijon. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Il faut que vous baissiez votre radio, Dominique, s'il vous plaît.
D'accord.
Voilà. Soyez la bienvenue.
Ok, merci.
Allez-y.
Voilà, oui, donc j'ai 4 enfants qui ont entre 32 et 20 ans. J'ai fait, à l'époque de la naissance de notre fille aînée, appel à une maternité où ils pratiquaient des accouchements dits Le Boyer, à la suite donc de la sensibilité de Frédéric Le Boyer. J'ai accouché par voix basse, voilà, tout s'est bien passé. Et puis, pour notre deuxième fille, elle est née prématurément en siège. Donc, j'ai eu une césarienne dans cette même maternité, avec un peu un parcours du combattant pour l'allaiter, parce qu'elle a été transférée. Moi, j'ai eu des difficultés. Et ce qui fait que pour notre troisième enfant, eh bien, je me suis adressée à cette même maternité où j'avais accouché les deux premières fois. Et l'obstétricien m'a dit qu'il n'y avait pas d'autre choix qu'une deuxième césarienne, en fait. Et donc, je me suis mise en recherche. Alors, je suis allée à Pithiviers, mais Michel Audin ne travaillait plus là-bas à l'époque. Et puis, j'ai trouvé une maternité en Bourgogne où l'obstétricienne prévoyait un accouchement par voie basse, a priori. Et c'est ce qui s'est passé donc pour notre troisième enfant, puis pour le quatrième enfant. Donc voilà, je voulais dire que c'est vraiment important de prendre plusieurs avis quand un avis va pas dans le sens de notre propre projet. Vraiment de s'informer, de se relier aussi à d'autres femmes à travers les associations. Et puis, je voulais témoigner aussi du fait que, alors, c'est vrai que j'ai toujours accouché dans des petites maternités, pas dans des grands centres universitaire hein, de naissance, mais l'importance aussi de négocier. Alors je sais que maintenant on le fait de plus en plus en amont à travers des plans de naissance avec l'obstétricien, mais de négocier même une fois arrivé. Enfin moi il m'est arrivé de me laisser poser le monitoring et puis de l'enlever et de dire tranquillement à la sage-femme qui revenait en se disant mais j'ai oublié de le poser, de dire mais ça me gênait pour j'avais besoin de déambuler un peu, on le remettra tout à l'heure, et en fait du coup on me l'a pas remis, voilà, des choses comme ça. Et puis vraiment l'intervention, l'appui du papa qui a aussi donc l'intérêt en couple de rencontrer des acteurs avec qui on peut vraiment se préparer sur ce qu'on souhaite exactement, et puis que le papa du coup puisse au moment de l'accouchement, quand on accouche dans une maternité, dire son mot quoi.
Merci Dominique. Peut-être un mot sur les petites et les petites maternités. Il y en a de moins en moins. Hein. C'est compliqué, hein, Évrard.
Oui, il y a de moins en moins de petites maternités pour des impératifs liés à des décrets et à des choix économiques. Hein. Il y a les deux. Il y a une histoire de plateaux techniques, d'équipements, de sécurité médicale, de médecins présents sur place. Mais il y a aussi des impératifs économiques qui ont fait que beaucoup de maternités ont fusionné. Alors, nous, on a une position qui est quand même pas forcément dans le sens si c'est petit, c'est beau, et si c'est grand, c'est moche. C'est pas tellement la taille qui fait la qualité d'un accompagnement, c'est la volonté d'être à l'écoute des femmes et des couples qui vont venir. Et
on peut avoir un très bon accompagnement dans des grosses structures.
Mais oui, on peut avoir un très bon accompagnement, on peut avoir une très bonne qualité de dialogue, on peut avoir une grande capacité d'autonomie, parce qu'on accepte que la femme soit en autonomie, et puis dans des petites maternités, avec des protocoles extrêmement stricts, la femme ne pourra pas bouger le petit doigt. Donc, c'est pas la taille qui fait, c'est vraiment la qualité du dialogue et la manière...
L'importance d'aller rencontrer, comme disait Dominique, le personnel.
Bien sûr, bien sûr, de pouvoir s'informer, la femme et le couple ont le droit de savoir comment ça se passe. Nous faisons régulièrement des enquêtes dans les maternités de notre zone, pour pouvoir répondre précisément aux parents qui s'adressent à nous, mais les parents peuvent faire ça, demander aux soignants, demander à la cadre de la maternité, comment ça se passe chez vous ? Qu'est-ce que vous faites quand j'arrive ? Et si moi, ça ne me convient pas, qu'est-ce qu'on va faire ? Voilà, donc se mettre en dialogue avec l'équipe, montrer qu'on a envie d'être acteur, ça vous permet déjà de voir si en face on vous entend ou pas. Et même si les maternités sont très chargées, on voit des gens qui, en cours de grossesse, s'aperçoivent qu'ils ne sont pas dans le lieu qui leur convient.
Peut changer ?
On peut essayer, en tout cas.
C'est compliqué.
Bien sûr, c'est compliqué. Mais on peut essayer. Et en tout cas, entamer le dialogue, ça permet aussi de faire bouger les équipes. C'est-à-dire qu'un médecin ou une sage-femme qui n'a pas l'habitude d'entendre une patiente poser des questions, qui a plutôt tendance à dire, écoutez, vous allez faire ci, vous allez faire ça, vous allez aller à tel endroit pour ça, vous allez aller à tel endroit pour ça, il peut être interpellé positivement par une femme qui va lui dire, écoutez, ce que vous me proposez, ça ne me convient pas tout à fait. Et puis, je n'ai pas de problème particulier, donc moi, j'ai autre chose à vous proposer.
Alors, il y a Germaine qui est à Brest, qui nous a rappelé. Germaine, bonjour.
Oui, bonjour.
Ah, super. Bonjour, Germaine.
Oui.
Allez-y.
Oui.
Il faut baisser votre radio, hein.
Baissez votre radio, surtout. D'accord.
Voilà.
Ce que je voulais dire, moi, je suis une ancienne accouchée. Donc, j'ai fait l'accouchement psychoprophylactique dit sans douleur il y a, oh là là, il y a 50 ans. Et j'ai un très bon souvenir de cet accouchement qui, malgré tout, n'était pas si facile. Mais on était tellement conditionnés par le gynécologue que on devait à tout prix le réussir. C'était comme un match de football. Il nous donnait des cours avant, remarquez, on n'avait que 3 visites à cette époque-là. Et donc, en plus, j'avais une amie qui devait accoucher après moi, et son mari disait toujours, oh là là, elle va le réussir son accouchement, parce que ça devait être une réussite. Alors moi aussi, on est jeune, et puis bon, je voulais le réussir. Bon, je me suis présentée à la clinique à 5h du matin, il n'y avait pas de place. On me dit, si vous avez peur, rentrez à l'hôpital. Bon, j'étais gonflée, je n'avais pas peur, je suis rentrée à la maison. 8h du matin, il était plus que temps que j'arrive, mais malgré tout, je n'ai accouché qu'à 1h de l'après-midi. Et tout ce temps, j'ai refusé les piqûres, l'oxygène, parce que je voulais à tout prix le réussir, cet accouchement. Et je l'ai réussi. Je vous assure que ça a été, mais pour moi, une victoire. Et pourtant, c'était pas facile. Hein. Je vous assure que toutes ces heures, c'était une lutte. Mais je pense que j'avais gagné la guerre. C'était formidable. On m'a ramenée dans ma chambre. J'étais plus que bien, évidemment, puisque je n'avais pas eu quoi que ce soit. On m'a emmené un grand plateau avec du poisson. C'était un vendredi. J'ai tout mangé le plateau. Impeccable. Voilà.
Merci Germaine de nous avoir raconté cette naissance il y a 50 ans. Merci beaucoup. On écoute une berceuse. Je suis sûre que ça va dire quelque chose aux gens qui ont un peu plus de 30 ans en ce moment.
Séraphine, tu seras marine. Dors, Sébastien, tu seras marin. Les bateaux poussent, graines sous la mousse. Leurs voiles sont grandes comme un liseron. C'est les rêves qui font grandir les enfants. C'est les rêves qui les poussent en avant, mais pas trop pourtant. Dors, Atalante, tu seras savante. Dors, Ferdinand, tu seras savant. Les livres poussent, graines sous la mousse. Leurs pages sont grandes comme un hanneton. C'est les rêves qui font grandir les enfants. C'est les rêves qui les poussent en avant, mais pas trop pourtant. Dors, Marie-Pierre, fera pas la guerre. Dors, Nicolas, sera pas soldat. Les hommes poussent, graines sous la mousse. Leurs cœurs ne sont pas plus grands qu'une chanson. C'est les rêves qui font grandir les enfants. C'est les rêves qui les poussent en avant, mais pas trop pourtant. C'est les rêves.
Jacques Orogne qui reprend une berceuse d'Anne Sylvestre. Voilà, c'est le temps de le dire, nous parlons de la naissance ce matin. Vous nous appelez au 04 72 38 20 23, vous nous écrivez le temps de le dire, @rcf.fr en minuscule et tout attaché. Agnès Aubry, la doula que vous êtes, voulait revenir sur le témoignage de Véronique. Véronique qui va bientôt accoucher de son 7e bébé et elle disait qu'il fallait pas tout dire, il fallait pas tout raconter. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord?
Mais je trouve qu'il y a une dimension qui s'est un peu perdue peut-être. Ça dépend des familles, ça dépend des cercles d'amis que l'on a. Mais c'est la transmission. Ça peut être un mot un peu galvaudé aujourd'hui, mais la transmission, c'est quand même important. Et c'est vrai que certaines femmes nous disent « mais je n'ai que des récits d'accouchement terribles autour de moi ». Moi, en tant que doula, c'est une composante de mon travail de transmettre des infos, mais aussi des récits de naissance, et pas que des naissances difficiles, justement. Alors, toujours évidemment dans le respect de la confidentialité des naissances que j'ai accompagnées, donc ça reste anonyme, mais je n'hésite pas à transmettre aux femmes que j'accompagne des naissances, des expériences d'autres femmes que j'ai accompagnées, pour les éclairer, pour les accompagner dans leur chemin, pour leur dire qu'il y a aussi des belles choses qui existent.
C'est important de raconter de belles histoires.
Oui, c'est important de raconter de belles histoires, sans non plus tomber dans l'angélisme. Hein. C'est pas tout est beau, tout va bien, etc. Mais c'est aussi de faire comprendre tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. C'est si on s'informe et qu'on a la possibilité de faire des choix éclairés, ça aide. Ça aide, et effectivement, on peut avoir aussi des belles naissances. Et puis nous, effectivement, en tant que doula, on est là aussi pour accompagner la femme, pour la soutenir, pour lui faire prendre confiance en elle. Et lui faire prendre confiance en elle, ça aide aussi, ça influe, on le sait, hein, sur la qualité du vécu.
Françoise Bard,
Moi, je pense que... Une femme ne va jamais... Une femme, oui, un père aussi. On peut toujours leur raconter des histoires de naissance parce que, en fait, multiplier les histoires de naissance montre qu'il y a des chemins très différents. Je pense que c'est important qu'ils ne se fassent pas un modèle à l'avance parce que, effectivement, ayant un modèle en tête, on peut être déçu par le chemin qui va être suivi. Donc, savoir que... On peut avoir une césarienne, on peut avoir des forceps. C'est pas ce qu'on rêve, mais savoir que ça existe, c'est quand même assez important.
Anne Évrard ?
Oui, nous faisons des cafés naissances tous les mois. Et ce que nous voyons régulièrement, c'est combien le témoignage de femmes qui expliquent par quoi elles sont passées, mais avec une démarche positive, qui transmettent justement « j'avais des besoins, j'avais des envies, j'en ai parlé, j'ai obtenu ceci, j'ai pu faire ça, il y a un moment ça ne correspondait pas à ce que je voulais, mais j'ai passé le cap, c'était dur, mais j'y suis arrivée parce que j'ai été soutenue par la sage-femme, par mon conjoint, parce que j'ai trouvé de l'apaisement dans une parole, dans un geste. » Ça met énormément en confiance les femmes. Or, pour accoucher, la première chose, c'est de savoir qu'on peut le faire. C'est qu'on est compétente à mettre nos enfants au monde, que notre corps sait faire naître nos bébés, à condition qu'on nous mette dans les conditions adéquates. Et ces conditions-là, justement, ça se construit. Et ça se construit dans le dialogue, dans l'accompagnement. Et dans ce sens-là, la transmission est très importante, parce qu'elle montre justement qu'on n'est pas dans un processus de soumission, qu'on est dans un processus actif, où on tient une place cruciale et centrale.
Agnès Aubry, on est compétente pour faire naître nos enfants?
Oui, c'est un des messages évidemment les plus essentiels que nous transmettons en tant que doula. C'est effectivement, et puis comme l'a souligné tout à l'heure Françoise, on ne serait pas autrement 7 milliards sur la planète. Donc oui, je reviens beaucoup sur ce mot, mais c'est se mettre en confiance en tant que femme. Oui, donc nous essayons d'instaurer un dialogue de manière à ce que la femme se sente en confiance et confiance en elle, en ses capacités à mettre au monde. Et évidemment pour le postnatal, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais c'est vrai que c'est aussi un de nos rôles, mais le postnatal, c'est très
après
important.
Après la naissance, voilà, mamans, là aussi, sont compétentes.
Voilà, oui.
Et c'est pas parce qu'elles ont regardé sur Internet, c'est parce qu'elles ont ça en elles.
Mais c'est-à-dire que ça peut être, on peut l'avoir en soi, on peut l'avoir un peu moins en soi, ça dépend des femmes effectivement, mais ça demande à être soutenu, et c'est une part de notre travail effectivement de les conforter dans cette confiance, soit déjà bien installée, mais ou émergente selon les cas. pour élever leur enfant. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'accouchement, on a parlé de la grossesse, mais le postnatal, c'est aussi quand même une grosse part. Et c'est vrai que c'est la continuité de la naissance et ça demande encore beaucoup de soutien.
Anne Évrard, puisque vous êtes occupée de l'association Bien-être à Lyon, qui avec beaucoup d'autres associations en France représente les parents, vous diriez que ça se passe bien, la naissance, ça va bien en France? Quel est le principal cheval de bataille de vos associations?
Si la naissance allait bien, je pense qu'il n'y aurait pas d'association. Donc la preuve est que nous ne sommes quand même pas arrivés à l'optimum, parce que sinon nous aurions beaucoup moins de travail et je ferais sans doute autre chose. Non, la naissance ne va pas bien parce que pendant des années, la médecine, qui dans notre pays a des vertus extrêmement paternalistes, a considéré que c'était les critères médicaux fixés par les médecins, par les soignants, par la faculté, qui devaient montrer que la naissance allait ou n'allait pas bien. Et donc on a mis des critères et des indicateurs qui sont des indicateurs de sécurité strictement médicale. On commence à peine à évoquer, c'est ce que je fais dans les instances où je représente des parents, à évoquer des indicateurs qui seraient des indicateurs liés au vécu des parents. Est-ce que la qualité, c'est simplement, bien entendu, le taux de césarienne, le taux de forceps, les hémorragies de la délivrance, etc. Ou est-ce que c'est aussi l'état mental, psychique, affectif, émotionnel des femmes qui sortent d'une maternité? Donc, si on s'en tient aux critères des médecins, bien entendu, nous faisons des progrès. Si on s'en tient aux critères des parents, je pense qu'il y a un très, très long chemin à faire parce que nous voyons beaucoup, beaucoup de femmes qui sont de couples, de pères, qui sont dans un ressenti vis-à-vis de leur histoire de naissance qui est négatif. Et pour des événements qui sont tellement essentiels dans l'existence, il me semble qu'on pourrait avoir des exigences un peu plus élargies.
Françoise Bard, on approche de la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour terminer ?
Pour terminer, poursuivre ce que dit Anne, j'aurais envie de dire que c'est très. Moi, je trouve que c'est quand même très difficile aujourd'hui de dire que, même du point de vue médical, on a fait des progrès parce qu'on fait de plus en plus d'actes techniques, mais on n'a pas amélioré les statistiques. Et donc, cette quantité d'actes techniques n'a plus autant de raison d'être qu'on veut bien le dire dans le milieu médical.
Et Agnès Aubry,
Je rejoins complètement François, c'est-à-dire que en termes statistiques, pour le coup, la France est mal placée dans les pays industrialisés, on va dire. Il y a beaucoup, beaucoup d'actes médicaux, c'est très médicalisé, mais sans résultat très probant, et notamment en plus au niveau du vécu, oui.
Donc il y a encore beaucoup de travail. Oui. Eh bien, merci mesdames d'être venues nous parler de la naissance. Merci aux auditrices qui ont témoigné. Demain, vous retrouverez Vincent Bellotti pour une émission sur comment restaurer ses jouets anciens, comment évaluer les jouets anciens si on veut les vendre. Nous nous retrouvons lundi, on commencera à sortir la crèche pour le temps de le dire, et chaque jour nous allons dépoussiérer un des sentons de la crèche pour voir comment il nous parle aujourd'hui. On commencera par les animaux. Le bœuf, l'âne et les petits moutons, vous êtes les bienvenus dans cette émission. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Juste, je voulais dire un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Ils sont nombreux, voilà.